Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, contente de vous retrouver ici pour une nouvelle balade dans le rétro. Chaque semaine, un nouveau podcast, un nouvel invité. On part en voyage et on partage des moments de vie dans lesquels parfois on peut se retrouver, on peut s'interroger aussi sur eux et sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes avec un comédien et humoriste humaniste, un amuseur malin, un observateur du quotidien. Il est le père de Jamel Debbouze et la mère de Boudère. Mon invité aujourd'hui, c'est Smaïn. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Smaïn.
Bonjour Déborah.
C'est comme ça que vous vous présentez sur scène dans votre spectacle, le père de Jamel Debbouze et la mère de Boudère.
Oui.
Bon, c'est le bordel par contre.
Oui, bah c'est toujours quand on rentre sur scène, il faut toujours avoir une accroche. Et c'est vrai que c'est une accroche qui y a des éclats
de
rire.
Mais c'est le bordel avant même de monter sur scène. Il y a plein de noms pour ce show. Il y a Smaïn des confinements, il y a Smaïn tout court,
oui.
Et il y a Smaïn ADN,
oui.
Algérien de naissance. Alors,
oui.
Je l'appelle comment, moi, ce spectacle ?
Comme vous voulez. C'est vrai que c'est très, très, très difficile de trouver un titre, mais bon, Smaïn, c'est déjà un titre.
C'est déjà un titre. Smaïn déconfinement, ça fait peut-être un peu dépasser maintenant.
Tout à fait.
Ça fait penser au déconfinement.
Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai un peu évincé.
Ouais.
Mais sinon, moi, on a trouvé bon de mettre Smaïn tout court.
Sur scène, Smaïn, vous ouvrez les valises de votre enfance. C'est ce qu'on va faire aussi dans cette émission. Dans cette valise, il y a quoi ? Il y a de la souffrance, de l'injustice, du racisme, de la joie, du bonheur.
Je pense qu'il y a de tout, mais ça se termine toujours par de la joie et du sourire. Mais ce spectacle-là, c'est une manière aussi, c'est une interrogation, c'est le regard sur un parcours, et c'est aussi, pour moi, réunir, surtout réunir.
Ça a toujours été ça, vous.
Moi, ça a toujours été ça, mais ça, c'est un réflexe, j'appelle ça un réflexe de colonie de vacances. Après le repas du soir, on se retrouvait tous près du feu, puis il y en a un qui se levait, qui faisait le clown, mais c'était moi. Et j'avais toujours le plaisir à voir le rire de mes camarades, ce partage.
Je parlais de valise. Quelle est la valise la plus lourde à porter et qu'on va déballer sur scène ?
Je pense qu'au départ, c'est une mise à nu. C'est soi, on ne peut pas mentir. Et quand on est sur scène, celui qui tient la barre, c'est l'acteur. Mais c'est aussi le spectateur, qui vous donne les bons points ou les mauvais points à la fin du spectacle.
C'est-à-dire qu'on est emporté. Les bons points, c'est le rire.
Voilà, c'est le rire, l'émotion, c'est on est emporté ou pas.
Ce seul en scène, Smaïn, en fait, il répond à cette question d'où je viens. Vaste question qu'on se pose tous à un moment de notre vie, mais à laquelle il est encore plus difficile de répondre quand on est orphelin de père et de mère, comme c'est votre cas.
Oui, tout à fait. C'est
difficile de répondre à cette question quand on ne connaît pas vraiment
ce qui est merveilleux pour chacun, pour la plupart. Pour la majorité, on sait d'où l'on vient, puisqu'on a un père ou on a une mère, mais on ne sait pas où l'on va. L'orphelin, entre parenthèses, il ne sait pas d'où il vient, puis il ne sait pas où il va. Donc il est suspendu. Mais avant d'aborder ce sujet, parce que c'est un sujet qui est lourd, je dis et je souligne que j'ai eu une enfance très 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 heureuse.
Ouais.
C'est vrai qu'on peut s'apitoyer sur mon sort, il est orphelin, il ne connaît pas son papa, il ne connaît pas sa maman. C'est vrai que c'est une blessure, c'est vrai que c'est une absence, mais ce spectacle-là aussi, c'est démontrer que malgré tout, on peut se relever de toute douleur. Alors c'est un mot que j'utilise à chaque fois, le mot de résilience. C'est trouver l'outil qui va nous relever. Et moi, ça a été le rire, ça a été le partage, ça a été la scène. C'est merveilleux quand le rideau s'ouvre et puis qu'on entend des applaudissements comme ça. Et c'est une nourriture qui est...
C'est une drogue.
Ça peut être une drogue, oui, mais il faut savoir aussi s'absenter. Il faut savoir aussi...
Se laisser désirer, alors se faire désirer.
Se
alors.
Laisser désirer, puis aussi dans notre métier, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a plusieurs outils. Il y a la scène, puis il y a le cinéma, il y a aussi... j'aime chanter. Alors c'est bien franco-français, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à laisser le comique dans une...
Dans sa case.
Voilà. Moi, pas du tout. Moi, je casse les codes et puis je fais ce que j'aime.
Vous butinez.
Voilà.
Smaïn, il y a aussi des sourires et des rires dans votre spectacle. En même temps, c'est un spectacle d'humour hein, quand même. Alors, en parlant de sourire, extrait.
Je souris toujours. J'ai toujours souri à la vie. Je souris même quand ça va pas. Voyez, là,
ça va pas.
Bon, on n'a pas l'image, mais c'est un prétexte pour vous poser une question. Même quand ça va mal, vous souriez. Même si rien ne va bien, souriez et vous verrez, ça ira mieux. C'est le pouvoir qu'on attribue parfois au rire et au sourire. Est-ce que ça marche selon vous ?
Oui, bien sûr. J'ai toujours souri, moi. Je souris toujours. Parce que c'est ma nature. Parce que j'ai, malgré tout, je suis habité quand même par le bonheur. Et c'est ma nature. Et puis j'ai compris très vite que quand une personne sourit, c'est beaucoup plus attrayant, plus attiré par une personne qui sourit, qui rit de la vie, plutôt qu'une personne qui s'apitoie de tristesse. Non, non. Et moi, c'est cette chance inouïe. C'est que, d'abord, c'est ma nature.
Il y a même des scientifiques qui le disent, sourire, c'est bon pour le cerveau, ça diminue le stress et ça augmente le bien-être.
Alors, je peux vous dire que je me sens très très bien. Tout à fait.
L'humoriste, c'est un observateur aussi du quotidien. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, mais qui ne vous donne absolument pas envie de rire ?
Quand je vois ce monde qui bascule, quand je vois ces inégalités, je suis abasourdi en ce moment d'un monde qui bascule vers l'horreur, qui nous mène certainement peut-être vers un chaos, peut-être, mais je le souhaite pas, mais c'est bien parti pour.
Comment on se protège du chaos ? Comment vous vous protégez de tout ça ?
On s'invente un monde et on appelle ça les artistes. Vous voyez, en venant ici, par exemple, j'ai écouté de la musique. J'ai déjeuné tout seul, là, voilà. Ben, j'avais mes écouteurs et j'écoutais de la musique brésilienne. Donc, en gros, la musique, l'écriture, le jeu, le comédien, l'art. L'art vous emmène dans un univers qui colmate un peu les douleurs et les souffrances de cette existence.
Ici, dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez en Algérie. Votre mère vous dépose le lendemain de votre naissance au dispensaire de Constantine. L'assistante sociale récupère le PV d'abandon et vous amène le soir à l'orphelinat. On pourrait se dire que votre maman vous a abandonné, mais c'est pas le terme que vous utilisez.
Tout à fait. J'aime pas le mot abandonner. Je préfère le terme de recueillir. On abandonne un enfant quand une femme accouche et qu'elle le laisse sur le bord de la route ou près d'une fontaine. Jean de la Fontaine. Ben moi non, cette femme, je pense, elle n'a pas pu subvenir à mes besoins. À l'époque, les femmes pouvaient avorter avec ce qu'on appelle une aiguille à tricoter. Moi, elle a été à son terme. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas subvenir à mes besoins, à mon besoin. Et elle m'a amené dans un dispensaire qui s'appelle la goutte de lait. C'est joli, hein?
Ouais, c'est joli.
Goutte de la maison de l'enfance. Et elle m'a remis dans les bras d'une assistante sociale. Donc, j'ai été recueilli. Voilà pourquoi dans les années 80, 89, j'avais écrit un livre chez Flammarion qui s'appelle Sur la vie de ma mère.
Ouais.
Et à l'intérieur du livre, j'avais dit, Madame, je vous aime sur la vie de ma mère.
Pendant 2 mois, Smaïn, vous avez ce qu'on appelle une mère nourricière. C'est une femme, en fait, qui nourrit le bébé avec son lait, mais qui n'est pas la maman biologique. Après 2 ans à l'orphelinat, une passeuse ensuite vous remet dans les bras de votre famille d'accueil en France. Vous avez alors 2 ans. Vous dites que le problème, c'est de passer de bras en bras et de main en main. Ça veut dire que c'est quelque chose de gravé au plus profond à cet âge-là. On ne se rend pas compte, on ne s'en souvient pas. Donc il y a une blessure vraiment profonde.
On ne s'en souvient pas. Si, on s'en souvient.
On s'en souvient.
C'est tactile, c'est aussi de l'odeur. Et aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et ça m'a posé beaucoup de problèmes dans mes relations, j'allais dire amoureuses,
ouais.
C'est-à-dire l'absence et la rupture de l'odeur. On a une première odeur, qui est celle de sa maman, une rupture, qui vous amène dans un dispensaire, dans les bras d'une assistante sociale, rupture, qui vous amène dans un orphelinat, auprès des bonnes sœurs, rupture, dans les bras d'une mère nourricière, rupture, ramenée en France par une passeuse. Donc, j'ai été que de rupture en rupture.
Ça ça m'interpelle vachement quand vous parlez d'odeur et de rupture.
Bien sûr.
Mais c'est quoi ces odeurs ? Enfin, qu'est-ce que...
Mais je pense que c'est totalement inconscient. Mais
parce l'odeur que c'est... de l'enfance, enfin, je veux dire, il y a des odeurs qui peuvent vous rappeler à des moments.
Mais nous avons tous, parce que nous avons tous une odeur. Nous avons...
Ouais, mais les odeurs, on s'en rappelle quoi quand on a peut-être une dizaine d'années ou non ?
Mais pas du tout. Intra-utérin, il y a déjà un travail, il y a déjà une sensation, il y a des... Bon, Freud a été là pour le prouver. Eh bien, quand on sort du ventre de la maman, eh bien, il y a déjà un contact avec tactile, déjà, puis le contact avec une odeur. Nous avons tous une odeur. Et quand on passe de parfum en parfum, si je puis dire, et qu'il y a une rupture, eh bien, je pense qu'inconsciemment, on est égaré, il y a un égarement. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. Et après, moi, j'ai pas eu de chance, parce que j'ai reperdu encore... Mes parents
à
13 ans, je perds mon père à 13 ans, ma mère... Mais je dis ça vraiment sans apitoiement, attention.
Oui, bien sûr.
Je ne veux pas que les gens qui m'écoutent
comme
disent «
Oh,
le pauvre,
le
miskin, ce qu'on dit, le pauvre ». Non, justement, j'ai réussi à rééquilibrer tout ça.
Et comment ?
Et aujourd'hui, eh bien, en étant entre parenthèses, on va dire aller le mot, on va dire un humaniste, en cherchant dans le regard de chacun une réponse.
quand vous parlez de votre rapport aux femmes qui a eu un impact, comment on répare ça? Comment on...
Mais je pense c'est encore, que... un... Mais c'est encore je pense autre chose. Je pense que c'est irréparable.
Ah ouais.
C'est irréparable. Et pourtant, j'ai 3 enfants. Mais c'est vrai que ça m'a toujours extrêmement perturbé. J'ai toujours été un homme amoureux. Dès que je rentre dans cette relation amoureuse, tout de suite, la peur que l'on me quitte, que l'on me laisse et qu'on me lâche. Donc, c'est toujours une relation qui est en général très succincte. Comme ça, elle est dans la rêverie. Voilà, elle est dans la rêverie. Moi, je peux croiser une femme. C'est un poème qu'a mis en musique Léo Ferré à une passante.
Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître.
C'est un regard qui se croise et je m'échappe déjà avec une rêverie. Toutes les femmes qui sont tombées dans mes bras, dans lesquelles aussi je suis tombé dans leurs bras, et il y a eu une peur viscérale due à l'absence,
À cette rupture.
Cette rupture d'odeur, ouais. Peut-être.
Smile, on va revenir à votre tout premier souvenir enfant chez vous dans le 12e arrondissement de Paris. Vous êtes là sur le lit de vos parents adoptifs, vous avez les yeux ouverts. C'est ce jour-là une deuxième naissance.
Oui.
Qu'est-ce qui pouvait dire que c'est une deuxième naissance? C'était à quel âge à peu près ça?
2 ans et 4 mois.
Et ça, vous vous en souvenez?
C'est très...
Diffus?
Oui, c'est diffus.
Ouais.
Mais j'ai le souvenir, je me vois dans mon lit, comme ma maman, on va dire ma maman m'avait préparé, et l'odeur, cette odeur justement du lit et des draps propre, bien frais, c'est un premier souvenir. Et puis après, c'est m'enlacer dans les bras de ma famille d'accueil. Malheureusement, c'est pas une famille d'adoption parce qu'elle m'a pas adopté.
Quelle différence? Ils n'ont
pas pu, m'adopter. Ça c'était un contexte ouais. Politique, administratif et tout. Bon, donc je les considère maintenant comme mon papa et ma maman. Ça a été pour moi une famille d'accueil. C'est encore plus beau d'ailleurs, famille d'accueil.
Vous avez voulu retrouver vos parents?
Bien sûr.
Ouais.
À 30 ans, j'avais besoin de me rapprocher de mon pays de naissance, l'Algérie. J'ai été sur l'endroit où on m'a recueilli.
Ouais.
Voilà. Puis j'ai cherché, puis j'ai pas trouvé. Mais je suis très heureux et très fier d'avoir fait ce cheminement. Et j'en profite pour dire que je suis profondément attaché à l'Algérie par une période un peu dissipée en ce moment. C'est ce qui me fait dire que je suis un Algérien de naissance et un Français de reconnaissance. Ce sont deux pays de cœur.
On part maintenant à la fin des années 60. Vous avez une dizaine d'années. Nous sommes au cinéma. Sur l'écran, le film « Les tontons farceurs », comédie avec Jerry Lewis. Ce film, ce sera une révélation. Vous rentrez chez vous, vous dites à votre père...
Papa ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Papa, aïe, j'ai des idées. Papa, je vais être acteur. Ah ouais? Mais ça coûte cher un tracteur.
En fait, vous voulez être connu, Smaïne. Vous voulez briller, vous voulez être aimé. Vous pensez que si on est aimé par les gens, on s'aime un peu plus nous-mêmes?
Oui, dissiper l'oubli. Voilà, c'est ce qui fait le comédien. C'est pour ça que je prétends aujourd'hui, maintenant, avec le petit temps de carrière que j'ai eu, en fin de compte, un artiste, ce n'est pas un statut, c'est une urgence. Et moi, il y avait cette urgence. J'avais besoin de colmater l'absence. J'avais besoin d'exister, donc de devenir. J'ai réussi mon coup, dis donc.
C'est un médicament?
Ah, mais c'est
ça soigne.
C'est plus que ça. C'est un rééquilibrage. C'est donner un sens à sa vie. Et pour tout être, d'ailleurs. Hein.
Jerry Lewis a dit « Vous pourriez aussi vous aimer. Pensez tout le temps que vous allez devoir passer avec vous. » Est-ce que vous vous aimez, Smaïne?
J'ai pas le temps d'y penser.
Sérieusement?
Non, j'ai pas le temps. Je suis parfois, je m'arrête et puis je suis fier de ce que j'ai fait, de ce parcours. Alors ça se concrétise par un Molière, par une Victoire de la musique, ou dernièrement officier de l'Ordre national du mérite remis par le président. C'est des gestes que je retiens. Puis en même temps, comme tout être, même pour les gens qui nous écoutent, on n'a pas tout accompli. Il nous faudrait plus qu'une vie pour pouvoir
accomplir.
Mais
est-ce que s'aimer, ça passe par des titres ou par des récompenses?
Il faut s'aimer parfois. on en a besoin.
Bah oui.
Il faut aussi être dans le doute. C'est le doute qui nous fait avancer.
Smaïn, je suis heureux quand on m'aime, malheureux quand on ne me comprend pas. Le propre de l'adulte, c'est d'accepter de ne pas pouvoir être aimé par tous. Est-ce que vous avez du mal avec ça ?
J'ai eu du mal.
Ouais, vous avez eu du mal.
Ça, bien sûr, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que le fait de ne pas être aimé, c'est le rejet. Et ça me ramène à
l'abandon.
L'abandon, le rejet. Ouais. Donc j'ai été extrêmement sensible. J'en ai parlé aussi avec Laurent Gérard, que vous connaissez aussi. Il m'avait dit un jour une chose assez juste, mais qui le personnalise. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je m'en fous. Ça m'avait frappé cette phrase. Je m'en fous. Moi, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, je m'en fous.
Mais
je
c'est
suis
fort.
Ce que je suis. D'abord, c'est honnête. Hein. C'est honnête de le dire. Et puis en même temps, on gagne du temps.
Bah, c'est confortable, surtout.
Ben oui, bien sûr. On gagne du temps. Rappelez-vous, il y a quelques années, un réalisateur français au Festival de Cannes.
Maurice Pialat,
qui avait dit « Si vous ne m'aimez pas, sachez que moi aussi, je ne vous aime pas non plus. » C'était fort. Hein.
Smaïn, téléportation. Nous sommes sur le chemin de l'école. Vous dites à votre papa, si tu viens me chercher à l'école, tu diras que t'es mon grand-père.
Mais oui, wow. Ah, c'est culotté. Hein. Mais maintenant, je me fous
très bien. C'est cruel.
Ah, bien sûr que tu remets les enfants sont cruels. Mon Dieu, parfois, oulala, oui, je le vois avec mes gosses. Hein. C'est bien d'être papa aussi, hein. On en apprend beaucoup. Oui, j'ai été effectivement cruel. Mais
parce que très âgé, il était très très âgé.
Il était très âgé, mon père ne faisait pas l'âge des parents qui venaient chercher leur enfant à l'école. Donc je disais à mon père, tu diras que t'es mon grand-père.
Comment il prenait ?
Ah, il disait rien. Il disait rien. Il était certainement blessé, mais il ne disait rien. Mon père était très sage. J'ai eu la chance d'avoir un papa adoptif, on va dire, mon papa. Un papa très très sage.
Nous sommes maintenant dans une salle de classe. Vous avez 11 ans, Smaïn. À cet âge-là, vous ne savez pas que vous avez été adopté. C'est donc d'une violence inouïe quand la maîtresse vous dit « Tu feras bien d'être plus attentif si tu veux réussir. Déjà que tes parents ne sont pas tes vrais parents. »
Oui. Oui, c'est lourd. Hein. Wow. Alors, j'ai reçu à ce moment-là, physiquement, ce que j'ai reçu, ça, mais je m'en souviens encore, hein. J'ai avalé une boule de pétanque. Mais ça, c'est vraiment physiquement, je l'ai ressenti. J'ai avalé une boule de pétanque, une grosse qui est arrivée dans ma glotte comme ça, une grosse. Et bah, y est, c'était dit. Alors, j'avais des petits soupçons. Je comprenais pas pourquoi on m'appelait Smaïn, Férous, Salamani. Je comprenais pas pourquoi mon père, je faisais passer pour mon grand-père. C'était insaisissable pour moi. Et là, franchement, c'était l'aveu. C'est bizarre. J'ai pas réagi.
Vous n'avez pas réagi.
J'ai pas réagi. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé mon père. J'ai failli sortir. Ça n'a pas sorti. Mais voyez ce qui est merveilleux. C'est qu'à l'absence de mon père et après de ma maman, à 20 ans, seul chez moi, dans mon petit 8e étage, arrivé de Jerry Lewis, arrivé de ce métier, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup pleuré. Mais vraiment beaucoup pleuré.
Pourquoi pleurer?
Pleurer, c'est marrant parce que j'aurais pu pleurer à la mort de mon père, de ma mère. Pas du tout. Mais à 20 ans, j'ai pris conscience, en fin de compte, que ces deux êtres, qui n'étaient pas mes parents, m'ont apporté beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et à 20 ans, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, je pleure plus, mais je les aime encore plus.
Vous dites que vous n'avez pas pleuré au moment de leur mort précisément, mais
non.
Quelques années après.
Oui.
Pourquoi on attend que les êtres chers qui ne sont plus là,
ça
met du temps à réaliser. Quand ils sont là, on est incapable de se rendre compte des choses.
C'est ce que je dis, c'est fou. C'est ce que je dis à mon fils. Je me suis surpris à dire l'autre jour à mon fils, tu verras quand je serai plus là. Et ça m'a ramené à ma maman qui m'a dit un jour, ouais, tu verras quand je serai plus là. C'est fou, hein.
C'est fou.
Comme ça se répète.
Et puis c'est surtout quand on entend ça de la part de nos parents, on trouve ça complètement anodin en fait.
Ben oui, on ne sait pas ce que ça veut dire.
On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais alors après, qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais pourquoi ? Parce que quand on est môme, on a l'impression qu'on est éternel. On ne sait pas, on a une vision de la mort, c'est lointain pour nous. Okay, mais plus on s'approche, plus on prend conscience. Puis ça se révèle, je vous dis, c'est merveilleux.
Enfin, ça se révèle quand la personne n'est plus là
mais
en fait.
Oui, c'est incroyable. Hein. On est parents. Je suis papa, je suis papa.
Smaïn, on change d'époque. Nous sommes au 379 rue de Vaugirard à Paris. Votre maman, femme de ménage, n'a pas assez d'argent pour vous garder. Vous vous retrouvez donc en foyer à la DAS. Vous lui en avez voulu un court instant ?
Ah, surtout pas.
Jamais.
Ah, jamais. Ah non, 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 ça c'est un mot banni. Pas du tout. Non, 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 non.
Parce que vous avez réussi à vous mettre à sa place.
Parce que peut-être que je ne saisissais pas vraiment à l'époque. C'est une décision qui a été prise par la DAS à l'époque. D'ailleurs, c'est drôle, parce que l'assistante sociale s'appelait Madame Lamaison.
Ah oui, pour une assistante de la DAS.
C'est incroyable. Et Madame Lamaison avait trouvé bon à la disparition de mon père. Comme ma mère ne pouvait plus subvenir à nos besoins, on m'a mis dans un foyer d'aide sociale à l'enfance.
C'est même pas la décision de votre maman au départ.
C'est pas une décision. Non. Et alors, je suis bavard. Un jour, j'ai rencontré Simone Veil à l'Élysée et je suis allé la voir. Oh, Smaïne, Madame, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, elle était ministre de la Santé. À l'époque, la chance qu'on a eue, tous ces enfants, on était nourris, blanchis. J'ai pu aller faire du ski. J'étais très très entouré avec des éducateurs qui étaient un peu nos grands frères. Pour moi, ça a été un moment très très important.
Mais parce que Simone Veil avait quelque chose à voir avec ça,
Elle était ministre.
Parce qu'elle était ministre à cette époque.
Elle était ministre de la Santé, donc elle avait la tutelle. Donc voilà pourquoi je la remercie. Comme j'ai été remercié un jour Giscard. Oh, Smaïne, il y en a deux à qui j'ai été remercié.
Là, vous prenez un coup de vieux. Hein,
ah ben oui.
Mais quand on parle de Giscard.
Non, Giscard, j'étais le voir il y a une dizaine d'années. J'ai été le remercier parce que c'est lui qui a donné la majorité à 18 ans. Sinon, je restais au foyer jusqu'à 21 ans. Ouais, donc j'ai été lui serrer la pince, merci. Il m'a dit, pour une fois qu'on me dit merci. Donc voilà,
Je vous ai interrompu parce que vous nous expliquiez, donc ça n'a pas été la décision de votre maman, mais ça a été...
Non, c'était la décision des services sociaux.
D'accord.
Que je sois donc...
dans ce foyer.
Dans ce foyer. Ça a été des moments un peu cruels pour moi. Je me rappelle, j'avais pris l'horloge de mon père, je l'avais mis dans ma chambre. C'était un réveil plutôt. Et un matin, quand je me suis réveillé, le réveil était tout désossé, était planté dans le mur de ma chambre. Ouais, sur la porte.
C'était qui ?
C'était mes camarades,
sympa.
Bienvenue. Ah, c'était cruel.
Wow.
Ah non, mais c'est le foyer, hyper cruel, mais bon, j'ai appris.
Ici, dans le rétro.
Dans votre spectacle, Smaïne, vous revenez sur votre enfance, sur vos débuts d'humoriste. Téléportation, on part au début des années 80. Nous sommes dans la rue avec votre pote Malik. Vous êtes devant la vitrine du magasin Connexion. Il y a là une trentaine de télévisions. Il est 19h50. On vous découvre à l'écran avec un sketch sur les Césars après avoir passé le casting du Petit Théâtre de Bouvard. Jésus a multiplié les pains et ce soir-là, la télé a multiplié le beurre. Pour vous reprendre, vous étiez né pour être là à la télé. C'était votre destin.
Oui, il fallait que je traverse ce bocal. J'avais compris très très vite, enfant, que si je rentrais dans ce bocal, j'avais le don d'ubiquité, c'est-à-dire la multiplication de mon image, donc être aimé.
L'amour décuplé.
Voilà, c'est ça. C'est fou, c'est incroyable, parce que c'est totalement, comme vous disiez, par rapport à l'odeur, c'est totalement inconscient. Totalement
c'était
inconscient.
C'était le destin, vous croyez au destin ?
C'est vrai que c'est pour ça que je m'interdis de me plaindre, parce que tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai eu envie de faire, je l'ai concrétisé. Alors, par certainement aujourd'hui le travail, par la chance, il y a ma nature, j'étais drôle, parce que là on parle sérieux, mais quand je déconne, je déconne. Hein.
C'est vrai qu'on est... En fait, on est trop sérieux.
C'est marrant, vous me posez des questions.
Vous venez pour un pestacle.
Je peux partir en vrille vite fait, mais bon, c'est pas le contexte de l'émission. Mais quand j'étais moi, je sais... Quelle était votre question ? Je ne me rappelle plus.
Je ne me rappelle plus non plus, vous voyez.
On s'en fout.
Non, on s'en fout pas. Non, je vous parlais du destin.
Le destin. Il y a, en fin de compte, il y a plusieurs paramètres. Il y a à la fois certainement votre nature, les rencontres, il y a le contexte. Petit frisé, la guerre d'Algérie, la marche des beurs, le Front National, Le Pen. Il y a un contexte qui fait que quand j'arrive à la télévision, je correspond à une attente. Ça a été le génie de Philippe Bouvard. Quand il crée le Petit Théâtre de Bouvard, c'est la cour des miracles. Il a un spectre de cette France et il met tous les ingrédients qui correspondent. Alors le beurre, et oui, il faisait partie intégrante de cette société. Il a fait pas. Alors je répète aussi, aujourd'hui il n'y a plus lieu d'employer le terme de beurre. Souvent, quand on dit beurre, oui, mais attends, on n'est pas beurre, on est français, etc. Oui, c'est ce que ils ont raison. Mais je dis avec poésie, le beurre a fondu dans la société. et tant mieux. Mais à l'époque, il fallait bien qu'on.
Mais on cherche des mots à chaque fois. C'est pareil, quand on est noir, alors certains emploient le terme black, beurre, rebeu, comme si arabe c'était une insulte. C'est très compliqué, en fait. Pourquoi c'est aussi.
Mais je pense que c'est l'histoire. C'est le passé, c'est les invasions.
C'est inconfortable à chaque fois quand
on... On a peur de dire, mais c'est le mot arabe. Mais c'est les Arabes qui ont inventé les mathématiques. La mandarine, ça vient de là-bas. Attention.
Non, mais on va dire rebeu, on va dire on black rebeu,
oui, mais,
pour noir.
Oui, oui, tout à fait. Oui, mais parce que le rebeu, si on dit Zinedine Zidane, on préfère dire Zizou. Ouais, oui, bien sûr. C'est historique tout ça. Ouais. C'est, et nous, en fin de compte, c'est ce que je dis. Moi, je dis, on est quoi nous? On est les victimes de tout ça. Moi, j'ai refusé d'être une victime. J'ai refusé. Sinon, je me serais pitoyé sur mon sort et j'aurais pleuré. Non. Moi, j'ai pris le taureau par les cornes et pour en revenir, j'ai eu des belles rencontres. J'ai rencontré mon époque.
Vous avez donc rencontré aussi Philippe Bouvard. C'était quelqu'un de très exigeant. Vous aviez très peu de temps pour écrire les sketchs. Il fallait être bon. L'exigence, c'est un moteur. Est-ce que l'exigence mène à l'excellence?
Oui. Alors, on peut être habité par le rire. On appelle ça la vis comica. Il y a beaucoup d'humoristes que je vois qui sont drôles, parce qu'ils naissent drôles, etc. Mais il leur manque quelque chose. C'est le travail. C'est le fait d'écrire. Quand je joue, je reprends mon texte à chaque fois. J'essaie d'améliorer pour arriver à l'excellence. C'est pour ça que quand je passais à l'Olympia, les gens me demandaient, mais est-ce que t'as le trac? Ben non, j'avais pas le trac. Pourquoi j'avais pas le trac? Parce que tout était écrit et je connaissais les chutes. Alors j'arrivais, alors les mains dans les poches. Et alors après, ce qui est merveilleux, c'est quand on sait son texte, on sait que tout est acquis. Alors après, il y a ce qu'on appelle la fulgurance. Et la fulgurance, c'est ce qui vous échappe. Et ce qui vous échappe, c'est ce qu'il y a de plus agréable. C'est-à-dire qu'un mot qui fait rire...
Et ah mais il faut qu'il fasse rire.
Ben,
parce que quand
rire.
C'est une fulgurance mais, oui, mais qui tombe à côté, ça fait chier.
Non, ça fonctionne.
Ah ouais.
Ça fonctionne, mais c'est totalement inattendu, donc je suis spectateur de cette innovation. Donc évidemment, je le reprends pour le lendemain, et ainsi de suite.
Smaïn, c'est dans les années 80 que vous rencontrez Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus et Seymour Brussel. Vous êtes alors les cinq avant d'être les inconnus. En 1985, on vous retrouve tous ensemble dans le film Le téléphone sonne toujours deux fois.
Comme disait mon arrière-grand-mère... Chaque larme que tu verses est une goutte de moins dans l'océan de tes joues.
C'est joli.
Après ce film, vous avez quitté les inconnus. Vous ne vouliez pas faire l'arabe de service, pour reprendre vos mots. À partir de quel moment on se dit « Ah, là, je suis en train de devenir l'arabe de service ».
Ben quand on n'a plus maître de soi et qu'on devient maître du désidérata des autres.
Ouais, mais vous pouviez faire ce que vous vouliez, non ?
Pas vraiment.
Ah non, pas vraiment.
Non, parce que j'étais inscrit dans un registre, mais je le savais. Je le savais d'ailleurs. Je salue mes camarades.
Hein, ouais, vous entendez
talent,
super bien encore.
C'est magnifique, on s'entend très bien. J'ai vu Pascal dernièrement. Mais je voulais être maître de moi-même et exploiter mes propres sketchs pour me raconter moi-même. Et surtout, ça j'en suis certain, si j'étais resté dans ce qu'on appelle, allez, on va dire plus communément, vulgairement, l'arabe de service, on m'en aurait beaucoup voulu. On m'aurait dit, ouais, mais tu fais que. Non, j'avais envie de danser, j'avais envie de chanter, j'avais envie d'écrire le sketch du président. J'aurais pas pu le faire dans le cadre avec mes camarades. Je suis parti dans la douleur aussi. Mais
oui, parce que forcément, on quitte une telle aventure, on la quitte dans la douleur.
Ah bah, je l'ai quitté dans la douleur parce que d'abord, je les aimais beaucoup. Puis souligner le génie et le talent de cette équipe, c'était aussi moi me retrouver seul face à mon propre talent. Voilà,
bah, et puis se dire, est-ce qu'on a fait le bon choix, quoi? Est-ce qu'on fait pas une connerie?
Oui. Mais vous savez, j'en ai pleuré. Hein.
Ouais.
Les gens le savent pas. Enfin, ouais. Mes camarades le savent pas. Mais quand j'ai pris la décision de les quitter, je me rappelle, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste? Je reste pas? Et puis j'ai pris la décision. Là, je pars.
Vous dites, voilà. Vous avez pleuré?
Mais oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré.
Pourquoi? En pensant à quoi?
Mais j'ai pleuré parce que je savais pas où j'allais. J'avais acheté un appartement, ne serait-ce que ça, pour payer tous les mois le crédit. J'ai été obligé de revendre mon appart. Mais
pourquoi?
J'étais libre.
Voilà, donc on prend
libre.
On prend ce genre de décision pour aller attraper cette liberté, parce que c'est quand même pas sans conséquence, et puis c'est un risque énorme.
Oui, mais c'est
donc on flippe.
Oui, mais c'est ce qu'on appelle le lâcher prise.
Bah.
J'ai fait ce qu'on appelle un lâcher prise et j'ai gagné.
Vous avez toujours pensé que vous aviez gagné, ou il y a des moments où vous avez dit mais merde, j'étais trop con. Pourquoi
j'ai
fait ça? Jamais.
Pourquoi moi? Mais jamais. Je n'y Aucun remords par rapport à ça. Jamais. Et d'ailleurs, on se revoit et je les aime beaucoup, franchement. Parce que, puis d'abord, quelle carrière. Et puis, l'amitié que j'ai pour Pascal, et je pense qu'elle est aussi réciproque, elle est indéfectible. Mais il était évident que j'étais plus à l'aise dans mes pompes, plutôt que d'être resté avec eux. Et je suis persuadé que si j'étais resté avec eux, je n'aurais pas été si heureux que ça.
Smaïn, c'est près de 10 one-man shows, une trentaine de films, des spectacles, de la télé, du théâtre, du doublage. Vous avez écrit 2 livres aussi sur la vie de ma mère et je reviens me chercher téléportation. Nous sommes dans une librairie, sur l'étagère justement votre livre « Je reviens me chercher ». Dans ce livre, vous racontez votre histoire, vous avez alors 50 ans passés. Vous dites « c'est l'heure de faire le ménage ». Passé 50 ans, on se sent comment ?
Sage.
Ah ouais ?
Ah oui, la sagesse, c'est énorme. Super, mais il y a des moments, il y a des, aussi des fulgurances comme ça de bêtises, d'enfantines.
Faut pas être trop sage.
Ah non, moi je suis pas sage.
Ouais.
Quand je dis sage, sage dans ma
mature.
Réflexion, mature. Là, par exemple, on remonte 30 ans en arrière, l'interview ne se passe pas comme je serais un trublion.
Vous auriez fait le con tout le temps.
Bah, j'irais à la technique faire la bise.
Ouais.
Je ferais l'intéressant, quoi,
ouais.
Pour briller, pour être là. Là, maintenant, je suis beaucoup plus posé, mais c'est très agréable. Mais on appelle ça quoi, la maturité.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Tiens, la maturité sans la fatigue. Oui.
Ah, il y a pas encore la fatigue.
Ah non,
ça va.
Moi, fatigué, pas du tout.
Ah, ça c'est bien. C'est bien. Vous écrivez aussi, j'aurai bientôt 30 ans de carrière. Bon, c'était il y a déjà quelques années.
Oui.
L'humoriste a ses humeurs, l'orphelin et papa. Devenir père quand on n'a pas connu ses parents, qu'est-ce que ça implique ?
La peur. Mais je pense que tous les parents ont
ouais.
peur. Hein, d'accord. Mais la peur et puis la transmission. Problems. Puis il y a une très belle phrase de Khalil Gibran : vos enfants ne sont pas vos enfants. Moi, je ne suis qu'un guide. Et c'est bien, c'est merveilleux parce que moi j'ai une éthique qui a été. C'est merveilleux parce que je me suis nourri un peu de tous, de mon père, de ma mère, des gens qui m'ont entouré, de mes éducateurs, de mes rencontres. J'ai fait un choix. Et ce choix, c'est ce qui m'a construit. Aujourd'hui, je tente de passer le relais à mes enfants. D'abord, le mot que j'ai toujours à mes trois enfants, le respect. Je te respecte, tu me respectes. Voilà, pas un mot plus haut que l'autre.
Ouais.
Tu me respectes, c'est ce que je dis à mon fils.
Ça marche pendant la crise d'adolescence, ça ?
Ça a été
compliqué,
dur.
C'est plus compliqué.
Ça a été dur, mais il y a
le
toujours...
Le respect envers les parents quand
mais
on est
ado. Mais il y a toujours le mot qui domine tout. Je t'aime. J'ai eu ma fille hier au téléphone. Un petit souci avec son frère. J'entre dans les détails et tout. Je t'aime. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Et on s'écoute.
L'amour,
tu me respectes et je te respecte.
L'amour, ça excuse tout.
L'amour, c'est protéger, d'abord.
Devenir parent, c'est instinctif ou ça s'apprend ?
Ce qu'on apprend à être parent. Françoise Dolto a écrit un ouvrage, « Comment être maman ?» Mais moi, je veux pas être maman. Moi, je veux être papa. Alors, la langue française, c'est merveilleux. Maman, maman, ma maman. Ma maman et papa. Non, non, papa, papa, papa. C'est difficile de devenir père. Plus facile pour une maman.
Vous croyez que c'est plus simple pour une maman ?
Oui, je pense.
Quand
que
on parle d'instinct maternel,
oui,
vous y croyez ?
Oui, parce
par
qu'elle
exemple.
A le lien de la chair.
Ouais.
Il y a le père. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pères qui partent, qui s'enfuient.
Vous pensez que quand on devient papa, on se sent un peu comme un étranger ? Enfin, on se sent un peu étranger au début ou un peu à l'écart, un peu.
Non, on est.
Faut trouver sa place.
On est spectateur aussi de sa propre vie aussi, du cheminement de sa vie. On appelle ça la bascule.
Ouais.
C'est soudain quand la maman m'a annoncé que j'allais être papa. Et je l'ai dit d'ailleurs à mon fils, j'ai baissé la tête et j'ai fait « oh là 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 ». Mais j'ai pas fait « oh là 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 là, t'arrives ».
Ouais.
C'est « oh là 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 là, il va falloir que je devienne un vrai papa ». C'est ça, papa, oui, non, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, l'éducation, aller à l'école, rencontrer les profs, etc. C'est se surpasser, c'est s'oublier presque. Et alors quand on est artiste, c'est un peu compliqué.
Parce que tout le
temps. Parce que ça tourne autour de soi, l'absence, beaucoup d'artistes, je ne citerai pas de nom, qui ont été des mauvais papas. Mais parce qu'absent, parce qu'emportés par leur fonction d'acteur. Et,
leur passion,
et ça, c'est très dur. Alors, il faut savoir improviser. Et c'est très compliqué. J'essaye de, malgré tout d'être un bon papa, mais qui est dominé par un mot, c'est « je t'aime, je vous aime ».
On termine notre voyage en musique, Smaïn.
L'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité, un soir a rompu ses amarres, elle avait soif de liberté.
Ah, c'est un beau cadeau, là.
L'île Saint-Louis de Léo Ferré. Cette chanson, c'est celle qui vous a fait aimer les mots un jour à Barcelone. Léo Ferré a été un père spirituel quand vous étiez au foyer de Vaugirard. Ferré disait « Le bonheur, c'est pas grand-chose, c'est juste du chagrin qui se repose. »
C'est beau.
Pour vous, Smaïn, le bonheur, c'est quoi ?
Bonheur, c'est du chagrin qui se repose, il faut surtout pas le réveiller. Alors le bonheur, qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur, c'est s'accomplir. Le bonheur, c'est trouver son cheminement. quel qu'il soit. Voilà, là je suis devant vous, j'ai cette chance que ma voix, comme l'enfant que j'étais qui voulait multiplier son image, soit multipliée à la radio. Mais il ne suffit pas de ça maintenant pour être heureux. Chacun de vous qui m'écoutez, savoir que le bonheur est à votre porte aussi. Il n'y a pas besoin d'être connu pour être heureux. Moi, mon propre bonheur, c'est de voir les gens sourire. Le bonheur, c'est écouter de la musique. Je parle de Léo Ferré, mais tant d'autres, Barbara, la musique brésilienne. Je suis fou de la musique brésilienne. Oh là là, Jobim, vous connaissez ?
Non.
Ah, mais c'est.
Allez-y, chantez.
Un chemin qui chemine, un racine. C'est un peu solitaire.
Ah, si, ça me dit quelque chose.
On l'appelait le Mozart brésilien.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
Mais j'aime aussi les nouveaux auteurs. Il y a du rap que j'aime, il y a du rap que je n'aime pas. Moi, j'aime bien le rap où je comprends les mots, parce que pour moi, les mots, c'est un véhicule quand même. Alors, il y en a qui parlent un peu trop vite, je saisis pas, mais il y en a qui comprennent. Moi, je comprends pas. Mais bon, il faut pas mourir idiot, il faut apprendre à aimer les autres. Donc, je suis curieux de la musique. Voilà, ça, l'amitié, à nos âges, la gastronomie, bien manger, oh là là, quel plaisir, le plaisir de la table aussi. Il y a plein de choses à nos âges dont on doit profiter. Alors moi, c'était quand j'avais 20 ans, les boîtes de nuit. Il y a deux jours, je suis descendu dans une, il y avait une boîte de nuit. Je suis resté 4 secondes.
Ah mais ça, c'est l'âge.
Non, c'est l'âge et puis aussi,
bah ouais,
je ne supportais plus la musique.
Ah ouais. Alors la que musique, vous aimez la musique, mais là, c'était trop fort.
Trop fort. Donc je suis parti et je me suis étonné, je me suis dit bah voilà, j'ai changé.
J'ai vieilli.
Non, j'aime pas. Oh là là, j'aime
mais
pas
si,
ce mot.
Mais c'est ça.
Mais c'est pas non, j'ai mûri.
Pardon.
Vieillir, oh non.
Ah bah j'ai pris un coup de vieux,
quel
bah c'est la
mot
vie.
Horrible, vieillir. Mais non, on mûrit, on mûrit, voilà.
Merci Smaïn.
C'est moi qui vous remercie.
Smaïn, c'est un spectacle réjouissant, marrant et émouvant à découvrir en tournée. Vous avez toutes les dates sur la page de l'émission Dans le Rétro. C'est aussi au République en ce moment à Paris. Oui.
J'en profite pour vous poser une question.
Ouais.
Votre nom, c'est quoi ?
Déborah Grunewald.
Grunewald ?
Ouais.
Alors, moi, quand j'ai pris des cours de théâtre,
ouais,
quand j'étais tout môme, parce que j'ai pris des cours de théâtre, j'avais joué une pièce qui s'appelait Ouragan sur le Ken. Et il y avait des personnages qui s'appelaient Grunewald. J'ai voulu me la péter là devant les auditeurs en disant aussi que j'étais un intellectuel.
Un intellectuel. Merci beaucoup, Smaïn.
C'est moi qui vous remercie.
Vous retrouvez cette émission et toutes les autres sur l'application Ici. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.